Bonsoir. Fumée blanche chez LREM. Agnès Buzyn désignée candidate à la mairie de Paris. La ministre de la Santé présente ce soir sa démission du gouvernement. Analyse, réaction dans ce journal. Et qu'en est-il des dossiers coronavirus, crise des hôpitaux qu'elle menait? Qui pour lui succéder à la santé? Élément de réponse dans deux minutes. Pendant ce temps, l'enquête sur la diffusion de la vidéo qui a provoqué la démission de Benjamin Griveaux se poursuit. L'avocat Juan Branco affirme ne plus pouvoir défendre son client. La grève contre la réforme des retraites demain avec les divisions syndicales qui ont raison de la mobilisation. Écologie ou économie, il faut choisir. Une station des Pyrénées amène de la neige par hélicoptère. Indignation d'Elisabeth Borne. Les commerçants, eux, sont plutôt soulagés. Le sport avec les mondiaux de biathlon. On entendait Martin Fourcade. C'est Émilien Jacquelin qui sort du chapeau. Premier sacre mondial. Et puis en NBA, le All-Star Game cette nuit avec un Français, Rudy Gobert. Tout cela dans le journal des sports.
France Inter.
J'y vais pour gagner. Les premiers mots d'Agnès Buzyn, désignée cet après-midi candidate à la mairie de Paris pour La République En Marche. La ministre de la Santé déterminée à mener à bien cette campagne express. Elle s'est exprimée il y a quelques minutes.
Cette ville, j'y suis née, j'y ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, je la connais. Je connais aussi ses problèmes. Je pense qu'il faut les régler, il faut les régler avec calme, avec détermination. Et je suis venue aujourd'hui chercher la confiance des Parisiennes et des Parisiens pour améliorer la qualité de vie et le quotidien de ceux qui y vivent. Ce ministère a besoin d'un engagement plein et entier dans la période actuelle, vous le savez, et je sais que ce ministère est préparé et ils sauront trouver un successeur qui évidemment prendra en main ces sujets d'importance.
Agnès Buzyn qui va donc diriger cette campagne torpillée par la diffusion de cette vidéo intime de Benjamin Griveaux. La mission s'annonce compliquée, d'autant qu'elle avait jusque-là toujours refusé les propositions, Cyril Gradiani.
Et pas plus tard qu'il y a 48 heures, dans ce studio, mais là, face à l'impossibilité, La République En Marche a trouvé un cador pour prendre la suite. Certains, hier, avaient même suggéré de ne pas présenter de candidat si c'était pour se retrouver avec une candidature de témoignage. Agnès Buzyn est donc contrainte de quitter le gouvernement. Elle remet en ce moment sa démission du gouvernement. Ses nouveaux adversaires pointent du doigt ce départ à l'image du socialiste Emmanuel Grégoire.
C'est pas une candidate qui a une implication et un ancrage parisien. Elle ne connaît pas Paris, elle ne s'est jamais intéressée au sujet parisien. Et d'une certaine manière, on détourne une ministre majeure dans un moment de crise majeure, notamment ce risque de pandémie du coronavirus. Et on comprend que, d'une certaine manière, l'intérêt de LREM prime sur l'intérêt national.
Alors pourquoi abandonne-t-elle son portefeuille alors que ses collègues Gérald Darmanin, le Premier ministre Édouard Philippe, eux peuvent cumuler les deux? Eh bien, eux ont déjà été maires, confié un conseiller gouvernemental, ils n'ont pas à défricher un terrain, alors que pour Agnès Buzyn, tout ça ce sera nouveau pour elle. La future ex-ministre entamera sa campagne dans quelques minutes, elle est attendue dans un bar du 9e arrondissement. Pas de répit, le premier tour est dans 4 semaines.
À Cyril Grazani du service politique de France Inter. Parmi les réactions, celle de Cédric Villani, candidat dissident. Le camp de l'ex-LREM juge ce choix incompréhensible. Agnès Buzyn, donc candidate à la mairie de Paris, c'est une femme devenue pièce maîtresse du gouvernement qui s'en va. Médecin de profession, elle était engagée dans de nombreux dossiers. Daniel Messager, pour ne citer que les plus importants, il y avait la réforme des retraites, la crise dans l'hôpital public et l'épidémie de coronavirus.
Et c'est après l'annonce d'un 12e cas confirmé de coronavirus en France et au lendemain de celle d'un premier décès que la ministre de la Santé quitte les affaires de santé, au plein milieu donc d'une crise sanitaire internationale qui certes a été bien gérée en France pour le moment mais qui est loin d'être terminée, au milieu aussi d'un conflit totalement enlisé au sein de l'hôpital public, des médecins, des infirmières qui ne désarment pas. L'arrivée à la tête du ministère de cette cancérologue spécialiste en hématologie avait été bien perçue. C'est mieux d'avoir un médecin, disent les professionnels, qui goûte peu d'être dirigé par quelqu'un qui n'est pas du sérail. D'elle, ils avaient apprécié les vaccinations obligatoires, la hausse du prix du tabac, premier tueur de France. L'opinion avait largement accepté la loi de bioéthique, une loi passée comme une lettre à la poste. Le reste à charge zéro aussi sur les lunettes et prothèses dentaires. Alors la suite s'annonçait plus compliquée avec cette austérité sur l'hôpital qu'elle ne maîtrisait pas. Agnès Buzyn est certes dans l'âme un médecin, mais elle a goûté aussi à la politique et elle a apprécié. Les élections européennes l'avaient tentée. Elle s'agaçait d'ailleurs parfois dans les interviews de ne pas être davantage interrogée sur un volet plus politique. Eh bien, ça va être désormais son seul sujet.
Alors Daniel, quel profil pour celui ou celle qui la remplacera?
Eh bien manifestement, le profil médecin ministre de la Santé convient bien. Donc pourquoi ne pas retenter? Et le nom qui revient le plus souvent est celui de Olivier Véran, neurologue, lui aussi issu de l'hôpital. Mais contrairement à Agnès Buzyn, ça fait longtemps qu'il affiche un puissant désir pour la politique, au point même d'avoir espéré être nommé à ce poste avant que le choix ne se porte sur Agnès Buzyn. De la santé, il connaît tous les dossiers ou presque, hôpital, déserts médicaux, dérive de l'intérim médical, filière du sang, en passant par le cannabis thérapeutique. Il peut parler de tout et ne s'en prive pas, car les médias, vu son aisance, lui donnent aisément la parole. Alors ferait-il pour autant un bon ministre? Ça, c'est encore du conditionnel. Possible, dit certains médecins, s'il ne se contente pas d'être un secrétaire d'État au budget, comprendre, ne parler que d'argent et pas réforme de santé.
Daniel Messager, spécialiste des questions de santé sur France Inter. L'homme par qui toute cette histoire a commencé, et lui toujours en garde à vue, Piotr Pawlenski, revendique la diffusion des vidéos qui ont conduit Benjamin Griveaux à renoncer. Interpellé hier, tout comme sa compagne, ils sont entendus pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel. Ce soir, l'avocat de Piotr Pawlenski, Juan Branco, affirme ne plus pouvoir défendre son client. Qu'en est-il, Ariane Grissel?
Alors, écoutez ce que Juan Branco expliquait tout à l'heure chez nos confrères de France Info.
Le parquet s'est opposé à ma désignation par mon client Piotr Pawlenski, ce qui est une atteinte complètement exceptionnelle au droit de la défense.
Très vite a circulé l'information qu'il avait été dessaisi par le parquet de Paris. Non, tout simplement parce que le parquet n'a pas ce pouvoir. Chacun est libre de choisir l'avocat qu'il veut, sauf, et c'est là que ça se joue, sauf s'il y a un soupçon de conflit d'intérêts. Autrement dit, ici, la question est de savoir si Juan Branco a eu un rôle à jouer dans la diffusion de ces vidéos. Il n'a jamais en tout cas caché avoir conseillé Piotr Pawlenski avant leur publication. C'est donc ce qui pourrait expliquer que le parquet refuse sa désignation, mais ce n'est pas encore tranché. Quand il y a soupçon de conflit d'intérêts, le parquet saisit le bâtonnier ici du barreau de Paris et c'est à lui de voir s'il désigne un autre avocat, donc rien de définitif pour le moment. Juan Branco le dit lui-même via son compte Twitter, il va rencontrer le bâtonnier demain midi. Entre-temps, l'avocat a désigné un confrère pour le remplacer, mais dit-il, Piotr Pawlenski se méfie alors qu'il est tellement de tout et de tout le monde qu'il refuse de valider cette désignation.
Et à l'instant, on apprend que les gardes à vue de Piotr Pawlenski et de sa compagne ont été prolongées.
France Inter.
Le mariage entre Alstom et Bombardier semble prendre forme. Selon le Wall Street Journal, le groupe français a conclu un accord préliminaire pour acheter les activités ferroviaires du Canadien Bombardier. Alstom, constructeur ferroviaire, aurait, selon cette même source, offert 7 milliards de dollars. On l'évoquait il y a quelques instants, la réforme des retraites, avec demain lundi le début de l'examen du projet à l'Assemblée nationale, date choisie par 5 syndicats, dont 4 de la RATP, pour une mobilisation. Ils appelaient à une journée noire dans les transports. Eh bien, c'est raté, Philippe Lefebvre.
Eh bien, il n'y aura pas de journée noire demain dans les transports. À la SNCF, tout d'abord, on confirme qu'il n'y aura pas de perturbation, que ce soit sur les TGV, les Intercités, les TER ou encore les Thalys et les Eurostars. Et à la RATP, même son de cloche, trafic normal sur les lignes A et B du RER, sur l'ensemble des réseaux bus et tramway. Quant au métro, quelques perturbations sont à prévoir sur les lignes 2, 5 et 12, 3 rames sur 4 en moyenne, mais sur toutes les autres lignes, le trafic sera normal. Alors à cela, plusieurs explications. À la SNCF, seule Force ouvrière appelait à la grève. Or, FO n'est que le cinquième syndicat dans l'entreprise, donc difficile pour lui d'avoir une véritable capacité de perturbation. Et puis à la RATP, la CGT avait décidé de ne pas suivre l'UNSA, premier syndicat maison, préférant se mobiliser pour une nouvelle journée de protestation jeudi prochain. Une querelle de stratégie et de calendrier donc, qui profitera aux usagers qui ne revivront pas les gigantesques pagailles du mois de décembre dernier.
À Crépy-en-Valois, dans l'Oise, 13 migrants irakiens, dont une femme et un enfant de 2 ans, retrouvés sains et saufs. Ils étaient dans un camion. C'est le chauffeur du camion qui les a retrouvés hier soir. Il a été pris d'un malaise en ouvrant son véhicule. Enneiger des stations de ski par hélicoptère, ce n'est pas possible. Réaction de la ministre des Transports après cette décision du département de Haute-Garonne d'acheminer de la neige par les airs à Luchon-Superbagnère. Opération trop polluante, juge Elisabeth Borne. Certes, mais c'était nécessaire, estiment les commerçants de la station qui souffrent du manque de neige. Flora Midi.
50 tonnes de neige. C'est un cadeau littéralement tombé du ciel pour les commerçants et l'école de ski de la station. Un vrai soulagement pour Claire Darnaud qui tient un bar-restaurant à quelques pas des pistes.
Le département et la station font un travail remarquable. Le fait qu'ils aient transporté de la neige en hélicoptère, ça va sauver des emplois, ça va nous donner une bouffée d'oxygène.
Dans les commerces, les chiffres d'affaires ont fondu de près de 30% en moyenne ces deux dernières saisons. Sophie Métayer est gérante d'un magasin de location de ski resté fermé pendant 2 mois.
Ça fait 3 jours qu'on voit l'hélicoptère tourner, donc il va chercher la neige en défilé et qu'on le voit déposer. C'est sûr que c'est impressionnant de voir les moyens qui sont mis en place pour pouvoir satisfaire le tourisme et nous pouvoir aussi de notre côté travailler.
Alors, quand on doit faire tourner sa boutique, comme Pascal Bondeau, restaurateur, l'argument écolo n'est pas recevable.
Le parking est plein de voitures, je pense qu'il pollue autant qu'un hélicoptère qui fait 15 rotations.
Un restaurateur soulagé, mais il admet que la solution n'est que temporaire. Il en faudra des vols d'hélicoptères pour parer au manque de neige. Dans le secteur de Luchon-Superbagnères, pas moins de 1700 emplois sont en jeu.
Reportage Flora Midi pour France Inter. La tempête Dennis, elle est passée. Elle a provoqué l'effondrement d'un morceau de falaise à Fécamp en Seine-Maritime. 60 000 foyers sans électricité dans le nord-ouest du pays. La circulation des trains est également retardée en gare Montparnasse. De l'autre côté de la Manche, le Pays de Galles est particulièrement touché. 3 personnes décédées, des champs inondés, des maisons endommagées. Direction la Hongrie avec cet après-midi le discours annuel de Viktor Orban. Discours sur l'état de la nation, exactement sur le même schéma qu'aux États-Unis. Le Premier ministre hongrois, chef de la droite nationaliste, fête ses 10 ans au pouvoir. Il s'est félicité de ses résultats dans un discours assez éloigné de la réalité, Florence Labouillère.
Tout va bien dans la Hongrie de Viktor Orban. Le pays n'a jamais connu une telle réussite depuis 100 ans, affirme l'homme fort de Budapest, qui se drape dans un nouveau costume écolo. À son retour au pouvoir il y a 10 ans, Orban avait supprimé le ministère de l'écologie. Mais aujourd'hui, il se rhabille en vert et annonce un programme de protection de l'environnement. Pour chaque nouveau-né, la Hongrie plantera 10 arbres. Dans son discours, le Premier ministre hongrois a ignoré les sujets qui fâchent et présenté la réalité de manière très lisse. Pas un mot sur la fronde des enseignants contre le nouveau programme scolaire défini par l'État. Un programme nationaliste qui inclut des auteurs antisémites. L'écrivain juif Imre Kertész, prix Nobel de littérature, a lui été exclu de la liste. Plusieurs syndicats d'enseignants ont demandé le retrait de ce programme. Selon eux, un poison pour la pensée. Budapest, Florence Labruyère, France Inter.
Viktor Orban, qui avait salué en son temps son camarade de combat, Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur italien, n'est plus aux affaires, mais sa politique a réveillé des activistes antifascistes. On les appelle les sardines. Leur premier rassemblement à Rome avait réuni des dizaines de milliers de personnes. Et bien 2 mois plus tard, ils se sont retrouvés à nouveau dans la capitale italienne. Et la date n'a pas été choisie au hasard, Marie Duhamel.
Ils ont des sardines autour du cou, dans les cheveux, en banderoles. Ils sont des centaines, de tous les âges, dans le centre de Rome. Une flash mob symbolique. Elle se tient alors même que dans le sud de la ville, le chef de la Ligue, Matteo Salvini, est en meeting de campagne. Julia nous explique le sens de cette contre-manifestation.
Se rassembler sur une autre place, cela témoigne de notre désaccord. Cela montre qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est important de montrer son visage et de dire pas en mon nom.
À Rome, les sardines veulent bloquer les ambitions de l'extrême droite comme ils sont parvenus à le faire lors des régionales de janvier en Émilie-Romagne. Ils dénoncent les politiques entrées en vigueur sur l'impulsion de Matteo Salvini lorsqu'il était au pouvoir, en particulier ses décrets sécuritaires. C'est ce que nous explique Daphné.
Il représente la peur, il s'appuie sur ce qui tue la communauté, la peur de l'étranger, une peur qui crée la fracture, isole et détruit la communauté. L'antidote à ce problème, c'est justement cette place.
Les sardines ne se revendiquent d'aucun parti. Elles pourraient mi-mars transformer le groupe de pression en association. En attendant, leur objectif affiché est d'opposer à l'onde de la haine des valeurs de tolérance et de solidarité. Rome, Marie Duhamel, France Inter.
Une disparition ce soir, celle du chanteur Graham Allwright, chanteur français né à Wellington en Nouvelle-Zélande, figure des chanteurs contestataires. Il avait participé à l'avènement du folk en France dans les années 70. Parmi les titres qui l'ont fait connaître, Sacrée bouteille.
Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie.
Jolie. quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie.
Un titre qu'il avait interprété avec Maxime Le Forestier sur scène lors d'une tournée au profit des enfants du tiers-monde. Il avait également adapté en français certains titres de Leonard Cohen. Graham Allwright avait 93 ans. Les conditions de circulation en ce dimanche soir ont rejoint le PC Mobilité de Radio France. Diane Esprimont.
Oui, il y a du monde sur l'A43 entre Lyon et Chambéry dans les deux sens de circulation, c'est chargé. Hein, prudence, une voiture est en panne à hauteur de Dulin et le trafic est saturé de la Motte Servolex jusqu'à Novalaise-le-Lac. C'est compliqué aussi sur l'A41 en direction d'Annecy depuis la Motte Servolex. Deux pannes à vous signaler sur l'A48 où la circulation est ralentie de Voreppe jusqu'à Bourgoin-Jallieu. La première à hauteur de Blandin et la seconde à hauteur de la Murette. Vous roulez très doucement sur l'A6 en ce moment de Beaune jusqu'à Auxerre où il y a actuellement un bouchon de 5 km de Sainte-Sabine jusqu'à Aiguilly.
Merci Diane Sprimont en direct du PC Mobilité de Radio France. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Une prévision signée Jean-Michel Golinski.
Bonne nouvelle demain pour les stations de ski des Alpes du Nord, où il est prévu une dizaine de centimètres de neige à moyenne altitude et une bonne vingtaine au-dessus de 2000 mètres. C'est la conséquence du temps humide qui va balayer le pays du Nord au Sud dans le courant de la journée, avec à l'arrière, après la pluie, l'installation d'un ciel variable. En début de matinée, les pluies vont se situer entre le Poitou-Charentes, le centre et l'Alsace. À la mi-journée, elles vont progresser vers l'Aquitaine, le Massif central et Rhône-Alpes, touchant en soirée les régions les plus au sud en épargnant la Corse. À l'arrière, une fois les pluies terminées, c'est un ciel d'éclaircies qui va s'installer, mais avec des averses assez nombreuses à proximité de la Manche, où le vent d'ouest sera sensible. Reste à parler des températures stationnaires ce lundi près de la Méditerranée, mais en perte de vitesse sur les autres régions, tout en restant quand même bien supérieures aux moyennes d'une mi-février.
Jean-Michel Golinski, le journal des sports. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Romain.
Avec la très belle surprise du week-end pour les Français, elle nous vient d'Italie avec un titre de champion du monde de la poursuite en biathlon pour Émilien Jacquelin.
Et quel destin pour le natif de Grenoble, puisqu'avant ces championnats du monde, il n'avait décroché aucune victoire dans une épreuve individuelle. Bonsoir Maya Cazenave.
Bonsoir.
Vous êtes à Anterselva en Italie et vous avez donc assisté au sacre de ce jeune homme de 24 ans.
Oui, après une course épique, spectaculaire, voire même une épreuve d'anthologie pour Émilien Jacquelin, seulement 24 ans, le Benjamin de l'équipe de France et qui s'est donc illustré. On l'attendait pas forcément, on attendait plutôt Quentin Fillon-Maillet qui partait en deuxième position ou Martin Fourcade qui partait en troisième position. Mais non, c'est lui, le fan de vélo, parti avec le dossard 6 à 30 secondes du leader avec 30 secondes de retard, qui s'est illustré d'abord parce qu'il a été absolument magistral au tir, un 20 sur 20, aucune faute, et ça lui permet d'aller à la bagarre avec celui qui est peut-être le meilleur biathlète du monde en ce moment, le Norvégien Johannes Bø. Les deux hommes au coude à coude dans les derniers kilomètres, et ce sprint somptueux devant le mur d'Anterselva, des dizaines de milliers de spectateurs là pour l'acclamer, et tels les cyclistes, tels Marco Pantani qui était son idole, il est allé jeter son ski le premier avant le Norvégien, et ils sont donc ce formidable bonheur ce soir.
Alors Maya, il y a eu l'éclaircie Jacquelin, il y a eu trois autres Français dans le top 8, Martin Fourcade notamment à la quatrième place. Chez les femmes en revanche, ça a été plus difficile pour le camp tricolore.
Ah, clairement, hein, les filles qui sont les vraies déceptions malheureusement de ces championnats du monde depuis le début. Il y a eu la déconvenue en relais mixte, la contre-performance des Bleus au sprint. Et donc on attendait beaucoup, on espérait enfin le réveil des Françaises cet après-midi pour cette poursuite. Les Françaises, elles étaient en embuscade. On pensait notamment à Célia Aymonier qui était une vraie chance de podium avec le dossard 15. Elle partait avec 50 secondes de retard. Malheureusement, encore une fois, les Françaises ont été plombées, totalement plombées par leur tir. 4 tirs marqués pour la meilleure française Anaïs Bescon qui finit 11e. Mais rendez-vous compte, Jérôme, derrière elles sont très loin les françaises. 30e, 35e, 37e avec 5 ou 6 fautes au tir. Va vraiment falloir régler la mire. Demain, il y a une journée de pause. Les françaises nous ont dit qu'elles allaient travailler ça vraiment. Et puis ensuite, il y aura le retour à la compétition pour les bleus. Avec, ça sera mardi, 15 km, 3 boucles à faire pour elles avec l'individuel. On espère vraiment qu'elles retrouveront aussi le sourire à l'image des garçons.
Merci à Maya Cazenave depuis Anterselva pour France Inter. La Ligue 1 de football, 25e journée. Lyon n'y arrive toujours pas, un match nul 1 partout face à Strasbourg. L'OL qui n'a plus gagné depuis 4 journées, qui stagne très loin du podium à la 11e place. Brest a dominé Saint-Etienne 3-2. Les Verts n'ont plus que 2 points d'avance sur la place de barragiste. Et puis Rennes, battu à Reims 1-0. Les Bretons qui peuvent être sortis du podium ce soir en cas de succès de Lille.
Les Lillois justement qui affrontent l'OM dans le dernier match de cette 25e journée. Marseille qui veut conforter son statut de dauphin du PSG.
Les Marseillais n'ont perdu que 3 matchs cette saison, hein, comme le Paris Saint-Germain, mais ils ont un gros problème à régler. L'hécatombe en attaque, avec la blessure notamment de Dimitri Payet, leur maître à jouer, encore absent ce soir. Et ça devient compliqué à gérer, Steve Lange et Zygostovic.
L'attaque de l'OM est devenue un vrai casse-tête pour André Villas-Boas qui teste de nouvelles combinaisons.
On a joué plusieurs fois avec des joueurs adaptés à la position des ailiers droits. On va continuer comme ça jusqu'à le moment où Thauvin se trouve à 100% pour rentrer aussi dans l'équipe.
Pour autant, l'OM a des faiblesses offensives et Valentin Rongier reste réaliste.
On arrive moins à presser les équipes comme on le faisait il y a quelques temps. Lorsqu'on arrivait à presser les équipes comme on le faisait, on récupérait le ballon plus haut. Et je pense que ça permettait aux attaquants d'avoir plus de situations. Je pense que on récupère le ballon plus bas et il faut effectivement le remonter et trouver des décalages, ce qui n'est pas simple.
D'autant que si un Payet manque, tout est dépeuplé.
Ça change beaucoup de choses dans le sens où quand un match est fermé, on sait qu'il est capable de débloquer la situation sur un coup de patte, sur un coup de pied arrêté, sur une frappe, sur un dribble.
Et ça, c'est très précieux pour l'OM.
Et match à 21h sans Dimitri Payet donc. Le top 14 de rugby et les deux derniers rendez-vous de la 15e journée avec la victoire à l'instant sur le fil du Racing 92, 30-27 contre Toulouse avec un essai francilien marqué dans les arrêts de jeu. Et dans le duel du bas de classement, Castres souffle après son succès bonifié à Agen 43-24 à Agen. Nouvelle lanterne rouge du championnat.
Rouge comme le sera la semaine du 15 de France qui prépare son voyage au Pays de Galles samedi prochain dans le tournoi Destination.
Galles-France, Romain, ça vous rappelle forcément quelque chose. Le 20 octobre dernier, quart de finale de la Coupe du Monde et cette défaite cruelle dans un match marqué en effet par le coup de coude de Sébastien Vamaina exclu. Voilà donc des retrouvailles attendues à Cardiff pour cette équipe de France rajeunie en tête de ce tournoi. Le consultant rugby de France Inter, Guy Akosseberi, en salue déjà.
Les déplacements sont toujours un peu plus périlleux et là c'est au Millennium. Et quand on connaît l'ambiance, la ferveur du Millennium, pour un joueur qui ne l'a pas vécu et pour un jeune joueur d'autant plus, ça, c'est particulier quoi. Donc oui, ça va être un très très bon test. Il va y avoir des vagues rouges. On sait que les Gallois vont essayer de prendre le dessus physiquement. Il y aura aussi en mémoire ce quart de finale de Coupe du Monde qui aurait très bien pu tourner du côté français avec l'expulsion de Sébastien Vamaina. Enfin voilà, il y aura tout un contexte et puis peut-être même la victoire pour le tournoi au bout puisque les deux nations peuvent remporter encore le tournoi. Donc un très très bon test pour cette jeune équipe.
Et en plus, un des 28 joueurs déjà présents à Marcoussis pour préparer ce rendez-vous face au Pays de Galles, eh bien 14 joueurs supplémentaires vont les rejoindre à partir de ce soir.
Direction le sud de la France à présent avec le Tour cycliste de la Provence et la victoire de Nairo Quintana.
Le Colombien qui a parfaitement réussi son adaptation chez sa nouvelle équipe Arkea Samsic sur cette épreuve plutôt jeune, un 5 ans d'existence et qui tente de redonner au vélo une nouvelle jeunesse. Fanny Lechevestrier sur les routes du Tour de la Provence.
Car c'est vrai qu'il y avait du monde tout au long du week-end pour approcher les Pinot, Barguil ou autres Quintana. Mais l'organisateur de la course, Pierre-Maurice Courtade, ne se voile pas non plus la face.
Aujourd'hui, je crois que c'est pas un mystère. Là, aujourd'hui, le public qu'on a quand même les cheveux assez blancs sur les lignes d'arrivée. On en est heureux parce que voilà, sans eux, on serait pas là. Mais il faut quand même penser à qu'est-ce que sera le cyclisme dans 10 ans. Il faut quand même penser aussi à amener une nouvelle population.
Alors pour inverser la donne, il innove avec un parcours chaque année plus télégénique comme cette arrivée risquée hier en plein hiver au Mont Ventoux. Résultat, cela devient le premier temps fort de la saison cycliste. Autre piste pour ce patron de course venu de la Formule 1 et du Grand Prix de France, développer ce qu'on appelle les hospitalités, les espaces réceptifs payants
dans un sport gratuit.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut acheter sa place dans une voiture du Tour de la Provence, peut acheter sa place dans les cars VIP du Tour de la Provence. Le cyclisme a un intérêt de peut-être rendre un peu plus qualitatif certaines parties, que ce soit les hospitalités, que ce soit aussi le comportement vis-à-vis des coureurs, des équipes. Il faut peut-être un peu innover pour aller chercher des autres publics.
Le cyclisme entre alors au cœur d'un tourisme sportif avec un nouveau public qui pourrait à terme permettre à une course d'élever son budget, aujourd'hui inférieur à 1,2 million d'euros et qui repose essentiellement sur les subventions publiques.
Et Thibaut Pinot, qui effectuait sa rentrée sur ce Tour de la Provence 7 mois après son abandon sur le Tour de France, lui termine 7e. Et un deuxième titre d'affilée pour Gaël Monfils après Montpellier la semaine dernière. Il a conservé son titre au tournoi de Rotterdam en battant le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime 6-2, 6-4.
Une pluie d'étoiles sur le parquet de Chicago la nuit prochaine avec le traditionnel All-Star Game du basket américain.
Les meilleurs joueurs de la NBA réunis pour cette rencontre toujours aussi impressionnante. Ce sera vers 2h, heure française si vous avez le courage. Et un Français a été sélectionné cette année, Rudy Gobert. Un petit événement, c'est seulement le troisième après Tony Parker et Joachim Noah. Rudy Gobert et sa longue carcasse de 2,15 m va vivre ce rendez-vous, Vincent Pellegrini, comme une consécration.
Au sein d'une équipe des Utah Jazz qui pointe dans le peloton de tête de la NBA, Rudy Gobert occupe une place prépondérante. Il prend toujours autant de rebonds, marque de plus en plus de points, mais sa marque de fabrique demeure son activité défensive. Grâce à des qualités hors normes, souligne son entraîneur en équipe de France, Vincent Collet.
C'est un joueur de grande taille, qui fait environ 2,15 m, mais qui a 2,35 m d'envergure. C'est un albatros lorsqu'il déploie ses ailes. Mais il y a d'autres joueurs de cette taille-là avec des grands bras. Et qui n'ont pas le même impact défensif.
L'All-Star Game est un match sans enjeu sportif, mais c'est un grand événement festif, spectaculaire et médiatique, et un moment important dans la carrière des joueurs participants. Yann Casville, rédacteur en chef de Basket Mag.
C'est une ligne sur le CV qui compte. C'est aussi, et c'est pas négligeable, souvent des bonus financiers dans leur contrat. Et comme on est en NBA, c'est parfois un bonus qui peut être $1 million. Et puis c'est aussi, c'est beaucoup d'ego. Ils veulent faire partie de ce gratin-là. Et ce moment-là, c'est quelques jours en février. Ils sont vraiment importants pour asseoir une certaine stature et se faire un nom encore plus important dans la ligue.
Rudy Gobert jouera cette nuit au sein de l'équipe dont le capitaine sera la star grecque de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo. Face à elle, l'équipe guidée par LeBron James qui disputera lui son 16e All-Star Game.
Je ne sais pas si Rudy Gobert pourrait rentrer dans ce studio avec son envergure de 2,35 m. Et puis un hommage sera rendu à Kobe Bryant dans ce All-Star Game, 3 semaines après la disparition de la légende des Lakers, lui qui détient le record de titre de meilleur joueur du All-Star Game, 4 au total.
Et pour conclure, Jérôme, notre rendez-vous hebdomadaire sur la route de Tokyo avec une nouvelle discipline olympique.
L'escalade qui fera son entrée au jeu cet été parmi les Français déjà qualifiés, un duo un peu particulier, les frères Mawen. Le plus jeune, Mickaël, champion d'Europe l'automne dernier, s'est confié à Jérôme Cadet.
6 années et quelques milliers de kilomètres séparent les frères Mawem. Bassa, l'aîné, vit en Nouvelle-Calédonie. Mickaël, le plus jeune, s'entraîne à Voiron en Isère, mais entre eux, le lien est permanent, Mickaël.
On est tous les jours au téléphone, en contact, ensemble, pour se raconter ce qui s'est passé dans nos séances, pour se donner un coup de motivation pour la séance du lendemain. On vit ensemble, même à distance. On a besoin, et c'est ce qu'on se donne ensemble, de la motivation, de l'énergie.
Leur passion pour l'escalade est née en Alsace. Loin des falaises et des sorties nature, ils recherchent la compétition. Bassa, plus puissant, s'oriente vers les épreuves de vitesse. Mickaël, plus léger, vers celle de bloc. Deux styles donc, mais depuis 2 ans et demi, un objectif commun.
Bah oui, c'est dans ma tête tous les jours, toutes les nuits. Chaque fois que je mange, je pense aux Jeux Olympiques. Chaque fois que je vais me coucher, je pense aux Jeux Olympiques. Pour les peu de fois que je vais en vacances, je pense aux Jeux Olympiques. Tout est autour de ça.
Et pour Tokyo cet été, Bassa et Mickaël se sont fait une promesse.
Que un gagne. S'il y en a un qui gagne, les deux gagnent. On est une équipe. S'il y en a un qui réussit, l'autre réussit. Et ainsi de suite. S'il perd, il perd aussi. On mise sur au moins une personne. Et s'il y a les deux, ben, tant mieux, on fêtera ça encore plus grandement. Ouais.
Et c'est donc logiquement ensemble que les frères Mawem portent un autre projet. Ouvrir des salles d'escalade un peu partout en France.
L'escalade donc au JO de Tokyo, en plus du karaté, du surf et du skateboard.
Le journal des sports, merci beaucoup Jérôme Val.